Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bonjour. La dernière fois qu'on s'est retrouvés ensemble, c'était physiquement, c'était il y a 3 ans. On a fait 2 années numériques. Je ne sais pas si vous avez été très assidus pendant ces 2 années, mais on pourra contrôler. On pourrait contrôler. Et on s'était promis la dernière fois 2 choses. On s'était promis qu'on ne vous obligerait plus à franchir le périphérique. Et donc, on a tenu parole, même si on est au bord de Paris, mais comme vous savez, la FNAC a son siège social pas très loin d'ici, de l'autre côté de la Seine. Et puis, on vous avait promis un petit cadeau. Donc, on aura le plaisir de partager avec vous c'est un petit cadeau, hein, c'est pas le prix Goncourt des lycéens qui a été organisé avec la FNAC, qui est le roman de Clara Dupont-Moneau qui s'appelle S'adapter. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, si vous en lisez un seul cette année, c'est celui-ci. C'est incroyable, c'est vraiment un roman bouleversant. Donc, je vous encourage vraiment tous à le lire. On avait le choix avec l'autre prix FNAC et on a choisi celui-ci sans hésiter, avec la démocratie qui nous caractérise entre Enrique et moi. Voilà. Bon, on est très heureux de vous retrouver en présentiel. On a eu cette année quelques changements au niveau du capital de notre groupe. Et donc, je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à la société Vesa Equity, qui est la société de Daniel Kretinsky, qui vient de franchir à la hausse les 15% de détention de notre capital, ce qui en fait aujourd'hui le deuxième actionnaire après le groupe SI Economie, qui est notre actionnaire depuis 5 ans. Et donc avec le SI Economie, je vous rappelle, 24% et Vesa 15%. Donc on a un actionnariat aujourd'hui qui est un peu plus structuré que les années précédentes. Daniel Kretinsky n'a pas demandé à rentrer au conseil d'administration, donc il est pas associé à nos travaux du conseil. En revanche, on fera appel aujourd'hui aux représentants de la société pour être scrutateurs, comme c'est la tradition. Les principaux actionnaires sont amenés à être les scrutateurs. On a eu au niveau du conseil le départ de deux de nos plus sympathiques et éminentes personnalités. On le regrette beaucoup. La première, Delphine Mousseau, qui a des compétences marketing très reconnues, a pris la présidence d'une société qui est un peu concurrente de Fnac Darty. Donc, on a dû se séparer. C'est quelque chose qu'on a fait évidemment à regret. Stéphanie Meyer va être proposée à vos suffrages à la présente assemblée pour la remplacer. Et on a également le départ de Carole Ferrand, qui présidait notre comité d'audit. Carole est la directrice financière du groupe Capgemini. Elle est là dans le conseil depuis longtemps, depuis 9 ans. Et elle a été cooptée pour rejoindre le conseil de Sanofi. Donc, elle a choisi de nous faire une infidélité, le Capgemini n'acceptant pas le cumul des mandats d'un seul mandat pour sa directrice financière, en plus de son travail évidemment de salarié. Carole sera remplacée. On vient dans le conseil qui a précédé cette assemblée de choisir la personne que nous allons coopter pour la remplacer, mais on n'était pas dans les délais pour vous la proposer à vos suffrages aujourd'hui. Quelques nominations donc pour les scrutateurs. Pour le bureau de l'Assemblée, pardon. Maître Olivier Rogivu, cabinet Freshfields, qui va acter pour SI Economie. Merci beaucoup. La société Vesa Equity, représentée par Pascal Leclerc. Je ne sais pas s'il est ici. Merci beaucoup, pardon, de votre présence. La secrétaire de l'Assemblée sera Nathalie Dubois, comme toujours, notre directrice juridique. Antoine Gosset-Grainville aura un long chapitre, c'est notre patron des comités des rémunérations. Il est ici. Guillaume Crunel parlera pour le Collège des commissaires aux comptes. Merci beaucoup. J'attire votre attention aussi sur la présence dans la salle de l'ensemble de notre conseil, moins une personne, mais notamment ceux qui sont soumis à renouvellement aujourd'hui, à savoir Daniela Weber-Reck, qui est ici au premier rang, et Jean-Marc Janaillac, qui est ici et que nous saluons. Vous avez été convoqué pour une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, tout ça dans les formes avec le ballot et tout ce qui va bien. Je peux vous indiquer que notre quorum est d'ores et déjà atteint, mais on vous donnera les chiffres exacts tout à l'heure. Je crois même qu'on a battu le record en tout cas depuis que je suis là, avec plus de 83% de participants à nos votes. le quorum définitif, donc vous sera indiqué tout à l'heure par Nathalie. Les documents prévus par la loi sont déposés sur le bureau, mis en ligne sur le site, et donc je vous fais l'économie de la lecture. Comme toujours, on essaie de se dire des choses plutôt plus intéressantes que formelles, même s'il faut respecter un certain formalisme. L'ordre du jour vous a été communiqué, notre assemblée est donc régulièrement constituée. Donc aujourd'hui, petit changement dans le déroulé des exposés. On a souhaité, après l'exposé du directeur général, faire intervenir tout de suite Frédéric Giavarini qui nous présentera la politique RSE. Je crois que c'est important qu'on prenne l'habitude de passer plus de temps sur le RSE et un peu moins de temps sur les chiffres. Et puis ensuite, Antoine Gosset-Grainville pour toutes les questions importantes liées aux rémunérations notamment, les commissaires aux comptes, les résolutions, les votes et enfin vos questions. Bonne séance à toi, Enrique.
Bonjour, merci. On est très content de vous voir à nouveau après ces périodes qu'on a dû les faire sans y être ensemble, même si on sentait bien évidemment proche de nous. Un mot pour, avant de démarrer nos discours et la présentation rapidement des faits marquants de l'année, même si je pense que la vidéo qu'on vient de voir résume assez bien des choses qui ont arrivé au groupe. Un mot évidemment pour remercier mes collègues du Conseil, autour de Jacques Béra et les différents présidents du comité, pour la manière comme ils ont accompagné les travaux de l'équipe, dans des périodes évidemment complexes que nous avons passées, avec totale disponibilité, même au-delà des disponibilités, et la manière comme ils ont donné soutien à l'équipe des managements, qu'on remercie. Donc il y a un an, presque jour par jour, je vais vous présenter notre plan stratégique Everyday. C'est un plan qui nous a permis, entre autres, présenter des résultats remarquables en 2021 et qui ont traduit une partie des premiers avancées de ces plans. Nous sommes très fiers, et on peut l'être, du travail collectif de nos 25 000 collaborateurs qui sont eux à qui on doit la réussite de ces projets. Cette performance de 2021, dans les contextes qu'on connaît en plus, nous conforte dans notre ambition devenir allié incontournable de nos clients en s'engageant pour un choix éclairé et une consommation durable. Vous savez que ça fait partie de la mission du groupe que nous avons présentée l'année dernière. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de notre impact commercial, et on y est, vous l'avez vu, les groupes ils dépassent déjà les 8 milliards de chiffres d'affaires en 2021, nous avons aussi l'ambition de devenir aussi un acteur majeur dans la réparation, de reconditionner de la deuxième vie pour remonter l'impact de nos activités dans tout notre écosystème et devenir un acteur structurant de ces mondes qui peut l'alliance entre la consommation et la nature. Et notre engagement en matière d'économie circulaire s'est matérialisé par un programme qui pour nous est symbolique, vous l'avez vu, ça s'appelle Dartimax. Dartimax, c'est l'abonnement illimité de la réparation. C'est un produit très innovant, fruit de la création de nos équipes, qui permettra, je l'espère, attacher un grand nombre de foyers en France, en Belgique et bien d'autres pays. Mais bon, je laisserai, après mon intervention, Frédéric Giavarini, de développer beaucoup plus en détail tous ces niveaux d'engagement du groupe dans ces matières-là. Donc, si on revient à l'année, deux années post-Covid, hein, on y est encore d'une manière un peu différente. Je pense que ce qui est remarquable, c'est la capacité du groupe à s'adapter à ces circonstances qui nous ont obligés à la fois de fermer nos magasins, basculer en activité pure digitale, adapter toutes nos chaînes de production des services, nos équipes, notre capacité, et au même moment donner du service de qualité à nos clients, qui les demandaient et pour lesquels était nécessaire. On considère aujourd'hui qu'on rend service au public. Et c'est nécessaire quand vous avez un foyer qui dépend des machines à laver, ou d'un frigo, ou d'un ordinateur pour faire travailler ou télétravailler les enfants et étudier, c'est des produits essentiels. Et nos équipes ont été au rendez-vous pour continuer à les faire. Mais en plus, nous avons dû surmonter des grosses difficultés, des complexités qui ont perturbé la chaîne logistique et des supply chain. Pas seulement pour faire venir les produits de tout le monde en France, mais aussi pour pouvoir les distribuer après. à travers le magasin, à travers nos sites internet. C'était un gros défi. Donc la bascule de cette activité online a été possible, évidemment par les talents et l'engagement de nos équipes, mais aussi, il faut le savoir, que nous avons plus de 20 ans d'expérience digitale. Et ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que nous avons des systèmes, des compétences dans le sens de nos équipes qui ont permis de relever ces défis et de faire un groupe qui aujourd'hui est capable de faire plus de 3 milliards des volumes d'affaires en digital. Et ça nous place dans un des principaux acteurs de la distribution au monde dans les scènes du digital. Nous avons aussi dû faire face à un changement énorme de la mode, des modes comme les équipes, ils ont travaillé pendant ces périodes, parce que pendant une longue période, nous avons dû faire recours au télétravail, au moins pour celles des équipes qui avaient la possibilité de les faire. Donc on a dû adapter aussi nos modes de fonctionnement, comme beaucoup de sociétés. Et au même moment, accompagner nos équipes, qui pendant ces périodes complexes, ils ont continué à travailler dans les terrains, dans les magasins, dans les surfaces logistiques, dans les opérations. Et tout ça, ça a été fait avec une très bonne harmonie. Bon, bref, je pense qu'on peut être fier de la manière comme les groupes ont traversé ces périodes. Ça nous a appris énormément des choses. Je pense qu'on nous a appris la puissance d'une marque comme les nôtres, la puissance d'une collective comme les nôtres. Et ça nous a permis, et vous l'avez vu, relancer la base de notre projet Fnac Everyday, lancé en début d'année. Les performances, après, évidemment, Jean-Brieuc, il viendra plus en détail, mais on peut se les dire, l'année 2021, dans ces contextes en plus, on peut les considérer comme une année extraordinaire en termes de performances. Notre chiffre d'affaires qui dépasse ces 8 milliards de chiffre d'affaires avec une croissance de plus de 7%. Il faut se rappeler que même l'année 2020, après ces périodes de lockdown, nous avions réussi à faire une croissance positive, beaucoup plus modeste en 2020, mais 2021, ça a été d'un dynamisme beaucoup plus important et on verra plus en détail que ça a concerné presque la totalité de nos lignes des produits. Nous avons insisté, tant mieux, à renforcer notre modèle Click and Collect. C'est les flux, c'est l'essence de notre modèle elle-même, c'est nos magasins, ils sont liés à l'activité digitale, ça permet de donner du sens à ces modèles hybrides, ça permet aussi d'optimiser nos coûts de distribution, donc nous avons presque maintenu pendant ces périodes un taux de click and collect autour de 250%, et finalement ça s'est traduit en niveau des résultats opérationnels de 271 millions d'euros, très comparable à nos résultats pro forma après Covid. Et tout cela malgré quelques activités qui ont été encore très affectées pendant ces périodes, des territoires, comme Jean-Brieuc le dira, des services, comme la billetterie. Donc il y a eu d'autres activités qui ont surcompensé la perte des deux filières ou des pays qui ont été pas aussi dynamiques dans le rebond de Covid en 2021. Nos marchés sont bien été portés, globalement. Ça, c'est aussi la chance d'avoir un groupe qui est diversifié et un mix de produits équilibrés entre trois grands secteurs, l'électroménager, les produits techniques et les produits culturels. Tous les trois, ils ont joué des rôles différents pendant ces périodes, mais tous les trois, ils ont eu des raisons d'avoir un bon dynamisme, et vous les voyez. Même des produits éditoriaux qui ont été très affectés négativement pendant Covid, la première période due, entre autres, à l'arrêt presque total des sorties des nouveaux titres, hein, musique, un film, sortie cinéma, bah bien, on a eu la chance d'avoir un marché du livre qui a été très dynamique et qui a permis de compenser largement la baisse de ces activités. Évidemment, les marchés produits techniques étaient en bonne croissance. Là, on se rappelle beaucoup de tous les produits électroniques liés au télétravail, aux ordinateurs, pour lesquels le groupe est largement leader. On fait plus d'un ordinateur sur trois vendu en France est fait par notre groupe. Donc ça fait, comme nous, un acteur significatif, même à l'échelle mondiale, avec autour de 2% des marchés mondiaux du PC. Et finalement, c'est le marché de l'électroménager qui est très porté par l'hiver. Les leaders du marché, c'est Darty. C'est un marché qui a été très influencé positivement par cet effet du Covid pendant toutes les périodes, en retour à la consommation à la maison, en retour des clients, ce qu'on appelle les stay-in, c'est on passe beaucoup plus de temps à la maison, on soigne beaucoup plus des équipements qu'on utilise, on fait beaucoup plus de repas, on s'intéresse au confort, et ça a porté fortement ces marchés. Les groupes ont sous-performé ces marchés, donc à la fois les marchés ont été positifs, et nous avons et de l'incapacité de faire mieux que nos marchés. Donc, Qu'est-ce qui a fait, pourquoi on a fait mieux que le marché, en fait, à part des talents de nos équipes? Bon, je pense que la taille du groupe, ça permet de prendre des positions compliquées, prendre des risques, prendre des paris forts, notamment sur la partie de la supply, être en capacité d'acheter, de sourcer, de pouvoir stocker des produits pour être prêt à pouvoir les vendre, c'est toujours un atout important. Je l'ai dit, la robustesse de nos systèmes, notre capacité à monter en digital, ça a permis de gagner plus de 10 millions de nouveaux clients digital pendant la période. Ça a boosté évidemment nos parts de marché. Compenser toutes les complexités des supply chains, ça a été aussi un moment important. Et puis, pendant ces périodes, nous n'avons pas arrêté d'innover, d'investir, de développer de nouveaux projets, d'innovation, de diversification dans de nouveaux métiers, comme la cuisine, comme la mobilité urbaine, etc., etc. Donc ça a contribué à cet dynamisme de nos activités. Évidemment, on revient sur l'axe du digital, qui a fait beaucoup parler. Les chiffres pré-Covid, ils notaient un groupe qui était autour des 20% d'activité digitale. On gagnait un point par an. C'était la tendance. En 20 ans, on a gagné 20 points. C'est simple comme formule. Covid nous a propulsé à 29. Il y a une petite note, c'est que ces 29, il est très affecté par des périodes de fermeture de magasins très significatives. Corrigé de cet effet, aujourd'hui, on tourne autour des 26%. C'est-à-dire qu'on aurait gagné en net, si vous me permettez, 6 ans des maturités digitales post-Covid. On ne considère pas que le Covid est fini, donc on ne sait pas encore comment ça va continuer, mais on peut s'imaginer que les fruits de clients que nous avons gagnés et de la pénétration digitale naturelle de ces marchés, on pourra imaginer un groupe qui va se projeter à partir de 26. Et pour mémoire, nous avons donné un guidance au marché d'arriver autour des 30% en 2025. Le groupe a aussi fait des paris forts de comment nous voulons être dans ces mondes digital, parce que il n'y a pas de raison que tout le monde soit pareil. Je pense qu'on doit tous être efficaces dans la manière comme on développe nos offres, comme on affiche nos produits, comme on les distribue rapidement. Mais aussi, les groupes, il y a des savoir-faire, des expertises très fortes dans les mondes du service, dans les mondes du conseil, dans les mondes de l'engagement. Et tous les travaux que les équipes ont portés pendant ces périodes, c'est comment nous pouvons passer cette expertise qui était très développée dans les mondes physiques au monde digital. Il y a un exemple qui nous porte beaucoup, c'est ce chat vidéo qui aujourd'hui est disponible, que je vous invite à tester. C'est la possibilité d'avoir accès directement sur la surface des ventes à un vendeur à Fnac Darty qui peut vous conseiller et vous accompagner sur un choix d'un produit, si besoin, pour un client qui est à distance. Ce sont des éléments qui vont permettre au groupe de différencier et continuer à travailler sur cet axe digital, mais un digital qui doit être humain et relationnel. Et finalement, des éléments d'innovation forte, et nous avons continué à investir fortement sur ces mondes digitales, parce que la compétition est rude et parce qu'il y a des opportunités pour continuer à améliorer la performance. Donc, des annonces que nous avions faites autour de notre partenariat avec Google. Google est évidemment un des gros meneurs de la technologie à niveau mondial, mais surtout, il y avait une chose qui nous intéressait beaucoup, c'est son expertise dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire, quand vous allez chez Google, vous tapez pour rencontrer une adresse, ça s'est fait d'une expertise qui est unique au monde. Tout le monde a des moteurs de recherche, mais on peut considérer qu'ils sont à un niveau que personne n'a. Et nous avons travaillé avec eux, les équipes, depuis longtemps pour nous permettre d'avoir accès à ces technologies. Ce n'est pas Google qui va faire nos moteurs, mais nous, on va utiliser une partie du code de ces moteurs pour améliorer la performance du groupe. Et ça, j'espère qu'il y aura un impact important dans la performance digitale de notre enseigne. Il ne faut pas oublier que pour être digital, on l'a dit, multicanal signifie être très bon en digital, mais pas perdre l'expertise des magasins. Les magasins, si vous on dit qu'on fait 26% de nos chiffres d'affaires en digital, signifie par écart que 74% de l'activité en magasin. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est l'essentiel de notre activité. Nous avons continué à développer notre parc. Vous le savez que nous avons une dynamisme forte dans d'ouverture et certaines photographies qui ont apparu en France, dans les pays, ou même dans nos franchisés à l'étranger pendant toute l'année, ont un rythme autour des 40-50 depuis quelques années. Cette année, on aura l'occasion de fêter les premiers millièmes magasins, j'espère, juste après l'été. Ça, c'est un symbole de dynamisme Et on se rappelle que l'ouverture d'un magasin, c'est l'opportunité de conquérir de nouveaux clients, mais aussi c'est l'opportunité d'affirmer le modèle digital multicanal, là où on met nos magasins, et on voit bien l'effet comme on l'imagine. C'est aussi l'opportunité de continuer à maîtriser nos modèles économiques autour du digital pour la livraison à travers ces magasins. On compte bien les poursuivre. Aussi, dans cet engagement d'Everyday, nous avions dit que la bonne gestion d'un parc des magasins, et on va arriver bientôt à 1000, ça signifie être très critique, très dynamique, et la manière comme on les fait évoluer, l'exigence que nous avons par rapport à ces magasins en termes de profitabilité, de qualité, d'engagement. Et donc, c'est-à-dire que on se donne des opportunités de négocier, redesigner, travailler pour que les magasins soient toujours en bon état et toujours en bon niveau de profitabilité, en allant jusqu'à parfois la réduction des surfaces et parfois, si nécessaire, et heureusement que ça n'arrive pas très souvent, arriver à la fermeture d'un magasin quand il n'est pas son rôle dans notre parc. Les groupes, évidemment, ils visent qu'on a un parc de magasins qui contribue à 100% à la rentabilité et on n'y est pas loin. Après, comme l'a dit Jacques, on parle beaucoup des domaines économiques, mais il faut aussi parler de l'impact. Nous avons pris une position très claire, c'est de nous positionner à côté de nos consommateurs pour les aider à faire un choix éclairé et durable. Ça peut être un peu même contradictoire avec l'intérêt d'une société qui fait la vente. On va se mettre dans une position dont, dans l'absolu, on pourrait vendre moins des produits. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Il faut regarder les choses d'une manière plus long terme. Ce qui nous sommes intéressés pour l'utilisation des produits d'une manière efficiente et qui donne plaisir à nos clients dans la durée. Et pour ça, il faut être capable de distribuer des produits et de faire des services. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit capable d'opérer dans le futur. Donc nous avons mis énormément de mécanismes en place au sein du groupe avec des ambitions très fortes pour augmenter la durabilité, pour travailler avec nos marques et pour élargir la durée de vie des pièces, pour travailler sur tous les domaines de la réparation, du cycle de vie des produits. Et ça, c'est quelque chose pour lequel le groupe il a un mot à dire. Et plus que ça, je pense que nous avons l'obligation d'être précurseurs et être référents dans cette dynamique de les sociétés qui s'engagent en pro du bien commun. Des preuves dans tous les sens autour de nos engagements de réparation, comme vous l'avez vu pour la chaîne WeFix. Nous avons eu la capacité d'associer un grand marque mondiale. Et quand vous êtes dans le monde de l'électronique, vous parlez d'Apple, c'est quand même la plus grosse marque mondiale aujourd'hui dans le monde électronique. Donc notre groupe, votre groupe, a été capable de faire un accord avec ces mastodontes mondiales pour gérer ensemble les parcs et des réparations des produits homologués autour de nos enseignes. Ça, c'est quelque chose qui permet et qui montre bien l'influence qu'un groupe comme les nôtres il peut avoir pour ces marques pour nous accompagner dans ces transitions pour une consommation plus durable. Finalement, je vous l'ai dit, on est très engagé sur notre programme d'Artimax. Un Artimax qui a une ambition très affirmée d'arriver à plus de 2 millions d'abonnés à la fin de cette période du plan stratégique. Nous avons déjà un premier demi-million. Nous avions déjà un demi-million au résultat annuel. La dynamique continue. Demain, on aura l'occasion de présenter aux équipes de la FNAC ces programmes parce que d'Artimax va être vendu aussi à la FNAC pour les clients de la FNAC. Donc les clients de la FNAC ils vont pouvoir bénéficier avec un avantage de ces programmes qui va permettre de protéger tous ces équipements achetés à la FNAC ou aux Darty. C'est un gros événement pour nous qui va contribuer à amener cette ambition de 2 millions. On voit déjà des impacts positifs de cette fidélité autour des clients des Darty Max. Déjà, ce sont des clients qui sont très attachés à la marque Darty, des clients qui viennent plus récurrents et qui achètent plus parce qu'ils font confiance à la marque pour proposer des produits de meilleure qualité, plus durables et parfois aussi avec un panier plus important. Donc, on y est tout à fait dans la lignée de nos intentions que nous avions présenté ces plans. Ça fait un petit passage très rapide sur cette année qui a été très intense avec énormément d'engagement de nos équipes. Ben justement, avant de passer la parole, je tiens à revenir sur l'engagement des équipes. C'était en plus dans un contexte d'inflation, d'inquiétude autour du pouvoir d'achat de nos collaborateurs, et on y tient énormément. Nous avons souhaité prendre des mesures importantes pour les accompagner, pas attendre pour des discussions, des négociations longues, mais prendre des mesures qui ont permis de revoir régulièrement les grilles pour lesquelles les collaborateurs sont rémunérés. Nous avons eu aussi l'opportunité de valider un prime de pouvoir d'achat que nous avons versé à plus de 80% des collaborateurs du groupe en fin mars, autour des 400 euros. Et évidemment, nous avons signé avec une grande norme de nos représentants syndicales, nos plans d'accord et NAO, qui a permis de revaloriser les salaires autour des 3% et surtout sur des salaires en bas de la grille et surtout des salaires qui sont un peu moins significatifs. Voilà, c'était nécessaire, c'était important d'être présent. Les équipes, ils ont beaucoup donné, vos équipes qui travaillent dans vos sociétés, ils ont beaucoup donné. C'était important que nous soyons aussi présents pour les accompagner dans cette période que nous connaissons tous complexe. Voilà, je reviendrai pour un petit mot de conclusion après mes collègues. Ah, maintenant, Frédéric, merci de venir au pupitre. Merci.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la stratégie et des principales réalisations du groupe en 2021 en matière de RSE. Comme vous l'a indiqué Enrique, avec le plan Hybridé, la réaffirmation de la raison d'être du groupe, s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable, la RSE a été placée au cœur de la stratégie globale, notamment en termes de durabilité. Très concrètement, le plan Hybridé intègre des indicateurs RSE, qui constituent des objectifs de rémunération pour les cadres du groupe et sur lesquels je reviendrai au cours de cette présentation. Notre politique RSE, je vous le rappelle, repose sur 5 piliers, la consommation durable, le développement du capital humain, la préservation du climat, l'éthique des affaires et enfin l'engagement dans nos territoires. Pour piloter ces différents sujets, nous avons fait le choix d'une gouvernance très décentralisée au sein de l'entreprise. Des comités RSE et climat ont été créés il y a plusieurs années et cette année, en 2021, nous avons rajouté un comité durabilité et un comité économie circulaire. Ces comités sont tous sponsorisés par un membre du comité exécutif et regroupent des représentants de l'ensemble des métiers, des filières opérationnelles. Ils élaborent évidemment des feuilles de route et des plans d'action concrets et pilotent leur réalisation dans le temps. Ce mode de gouvernance décentralisé permet une appropriation des enjeux RSE par l'ensemble des collaborateurs et une mise en œuvre concrète au sein des métiers. Notre gouvernance en termes d'éthique des affaires a également été renforcée en 2021 par la désignation dans chacun des pays dans lesquels nous avons des opérations de référents RSE. Il sécurise la diffusion des enjeux, le déploiement des processus et facilite des relations plus équilibrées et durables avec nos parties prenantes. Une plateforme d'alerte éthique de conformité externalisée, a été accessible à tous, aux salariés, aux fournisseurs et aux clients, a été d'ailleurs déployée en 2021. Après cet aperçu général, je vous propose aujourd'hui de faire un focus sur nos principales réalisations, sur des sujets de préservation du climat, de capital humain et d'engagement dans nos territoires. Concernant la préservation du climat, nous sommes en bonne voie pour atteindre l'objectif inscrit au plan Hybridé, qui est de réduire nos émissions les plus directes sur le transport et l'énergie de 50% à horizon 2030 par rapport à 2019. À fin 2021, en valeur absolue, la réduction s'établit à moins 6% par rapport à 2019 et rapportée au chiffre d'affaires, elle s'établit à moins 14%. En 2021, le groupe a accéléré sa transition dans les énergies renouvelables. Ainsi, dans un contexte d'hyperinflation sur le marché de l'électricité avec des prix records et une part d'énergie renouvelable très faible en France en 2020, nous n'avions que 14% de consommation d'énergie renouvelable en France en 2020, alors qu'elle était de 100, cette consommation était de 100% dans les autres pays dans lesquels le groupe est présent. Nous avons conclu deux accords successifs en 2020 et en 2021 avec des producteurs d'électricité d'origine renouvelable sur des sites en sortie d'obligation d'achat. Ces deux accords permettront de porter à environ 27% la part des énergies renouvelables en France à fin 2022. Mais surtout, nous avons franchi une nouvelle étape en 2021 grâce à la signature d'un partenariat avec Valeco, dit Corporate PPA. Concrètement, il s'agit d'un investissement dans la construction d'une nouvelle centrale agrisolaire de production d'énergie renouvelable, ce qui va rendre le groupe acteur du développement des énergies renouvelables en France. Le prix est fixe sur la durée du contrat, ce qui sécurise les coûts d'approvisionnement. Le projet sera développé à partir de cette année, avec un accent très fort mis sur la protection et le développement de la biodiversité, notamment grâce à la reconversion de terrains pauvres en prairies, la construction d'une ferme apicole et d'un élevage ovin, et la création d'emplois avec des entreprises d'insertion locale. La mise en service de ce projet est prévue courant 2023, et ça portera la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité du groupe à près de 45% en France, et à près de 60% sur le total du groupe à horizon 2024. Donc c'est un progrès très significatif. Par ailleurs, en 2021, Fnac Darty s'est conformé pour la première fois à la taxonomie européenne et a travaillé à la définition des indicateurs relatifs à la part du chiffre d'affaires, aux dépenses d'exploitation et aux dépenses d'investissement associées à des activités économiques durables, dites éligibles ou admissibles, sur la base des premiers textes ou sur base volontaire. Enrique vous a parlé de la durabilité. Sur ce sujet aussi, nous avons accéléré. Nous avons signé en juillet 2021 la charte du e-commerce avec d'autres grands acteurs du secteur pour favoriser la réduction de l'impact environnemental du commerce en ligne avec 10 engagements concrets pris par le groupe et notamment la réduction des volumes d'emballage, le développement des modes de livraison décarbonés ou encore l'information des clients sur l'impact environnemental de la livraison. Sur ce dernier sujet, et en avance de phase sur le calendrier fixé par la charte, Fnac Darty informe désormais ses clients de l'impact environnemental des différents modes de livraison à travers un service inédit que nous appelons la livraison éclairée, qui était déployé en début d'année sur les sites marchands Fnac.com et Darty.com. Fnac Darty est ainsi le premier distributeur à fournir à ses clients e-commerce les émissions de CO2 d'un kilo de produits transportés en fonction du mode de livraison choisi, ce qui leur permet de faire un choix de livraison plus éclairé. Nous proposons également aux clients d'évaluer l'impact CO2 d'un éventuel déplacement en magasin en complément. Les données publiées ont été auditées par un organisme tiers indépendant et feront l'objet de mises à jour régulières, notamment en fonction des données publiques que nous transmettra l'ADEME. Concernant le capital humain, dont le développement, vous le savez, est au cœur de notre responsabilité, deux indicateurs suivis dans le cadre du plan stratégique Everyday sont en nette amélioration et témoignent de l'engagement du groupe en faveur du développement de la parité. Le premier, c'est la part des femmes membres du comité exécutif qui s'établit à 38,5% à fin 2021 contre 33,3% en 2020 avec un objectif de 40% à horizon 2025. La part des femmes dans le top 200 des managers du groupe s'établit à 27% en 2021 contre 23,3% en 2020 avec un objectif de 35% d'ici 2025. Un réseau interne dédié au thème de la parité, donc appelé réseau Execo, qui est ouvert à l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices du groupe, a été créé pour sensibiliser nos salariés, briser le plafond de verre et faire de la parité l'affaire de tous. L'année 2021 a été également riche sur le volet des relations sociales. Nous avons signé plusieurs accords importants. Des accords sur le télétravail qui portent par exemple pour le siège à 3 jours le nombre de jours de télétravail et contribuent à l'attractivité du groupe et à la marque employeur. La signature d'un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui facilite le développement des compétences et propose la mise en place de parcours professionnels sur la base des objectifs du plan stratégique et de l'anticipation associée des besoins en compétences à moyen terme. Enfin, un accord sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, pour la première fois signé au niveau du groupe. Jusqu'à présent, il était signé au niveau des entités juridiques, pour renforcer l'engagement des collaborateurs avec des bénéfices concrets pour les salariés, qu'ils soient parents, seniors ou encore des salariés aidants, des proches, par exemple en situation de handicap, qui peuvent désormais bénéficier d'aménagements supplémentaires de leur temps de travail ou encore de bénéficier de jours de solidarité. Sur le plan sociétal, Fnac Darty a poursuivi ses engagements sur plusieurs dimensions et notamment en faveur de la démocratisation de l'accès à la culture avec le lancement d'un nouveau site de prescription, l'éclaireur Fnac, qui décrypte les actualités culturelles, technologiques et les enjeux sociétaux de ces univers pour guider les internautes vers un choix plus éclairé à nouveau. Nos actions sur le volet des dons et du mécénat ont été significativement renforcées notamment avec le déploiement de la solution Microdon d'arrondis solidaires automatisés en caisse dans les magasins Fnac. La solution sera développée progressivement sur l'ensemble du parc de magasins Fnac et Darty. Au total, en 2021, ce sont plus de 11 millions d'euros, contre 4,6 millions en 2020, qui ont été consacrés par le groupe Fnac Darty à des actions de dons et de mécénat, avec une part importante des dons en nature. En 2021, nous avons également poursuivi nos partenariats solidaires historiques avec Sport dans la ville ou encore avec Télémac et déployé une solution de bénévolat de compétences grâce à la plateforme Wenabi qui permet de mettre en relation des collaborateurs et des associations. Ainsi, les collaborateurs peuvent s'engager dans des missions de bénévolat de tous ordres, dans des domaines très variés, l'environnement, le parrainage des jeunes, l'inclusion ou encore des actions solidaires de soutien à l'Ukraine. Après cette année très riche, l'engagement du groupe en matière de RSE a été reconnu par les agences de notation extra-financière. Nos résultats sont en nette amélioration, comme vous pouvez le constater, par rapport à l'année précédente. Les agences ont notamment souligné positivement notre gouvernance en RSE, la diversité du conseil d'administration, nos améliorations en termes de pilotage de la stratégie de décarbonation. Ainsi, Moody's a attribué au groupe la note de 54 sur 100, qui nous place parmi les meilleurs de notre secteur, avec une amélioration de 6 points par rapport à 2020. Et sur le pilier de l'environnement, nous avons une amélioration de 14 points de notre notation Vigéo. Et ça, c'est directement lié, comme nous le disions, avec l'intégration des problématiques environnementales dans notre stratégie. Le CDP a également reconnu cette intégration et ces efforts que nous avons faits, et notre note est passée de C en 2020 à moins en 2021. À noter également cette année que Nature et Découverte a renouvelé pour la troisième fois consécutive sa certification Bicorp. Voilà, comme vous le voyez, dans un contexte encore très particulier lié à la crise du Covid, en 2021, le groupe a encore multiplié les projets pour limiter l'impact de ses activités sur l'environnement et sur la biodiversité, et renforcer ses engagements sociaux et sociétaux. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de revenir sur la performance opérationnelle de Fnac Darty en 2021, avant de commenter la performance financière et la solide génération de cash flow du groupe. Regardons dans un premier temps le haut du compte de résultat. Dans le contexte de crise inédite qui s'est poursuivie en 2021 avec la fermeture d'une partie des magasins au cours du premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires record de plus de 8 milliards d'euros. Nous présentons ainsi une croissance exceptionnelle de plus 7% en données comparables par rapport à 2020 et de plus 8,2% par rapport au proforma de 2019, soit avec Nature et Découverte en année pleine. Cette solide performance résulte de la croissance des ventes en magasin, portée à la fois par un taux de transformation et un panier moyen en hausse, alors que le trafic reste pénalisé, notamment dans les centres-villes et les grands centres commerciaux. Compte tenu d'un effet de base de comparaison élevé, les ventes en ligne du groupe se sont consolidées au cours de l'année, avec un poids qui reste élevé à 26%, bien au-dessus du niveau pré-crise. Le taux de click and collect atteint 46% cette année, proche du niveau cible de 50%, et en forte hausse de plus 7 points sur un an. À noter qu'au quatrième trimestre, dans un contexte d'ouverture normale des magasins, ce taux a même dépassé les 50%, preuve que les consommateurs plébiscitent fortement ce canal. Le taux de marge de brut du groupe atteint 29,5% en 2021, en hausse de 30 points de base par rapport à 2020. Cette progression provient principalement d'un effet mix produit favorable pour environ plus 40 points de base, lié notamment à la hausse du trafic en magasin, ce qui a profité aux ventes de produits éditoriaux, qui sont très sensibles aux achats d'impulsion. Et il a profité également de la hausse des services pour environ 30 points de base, tirés notamment par la poursuite du déploiement de Darty Max. Ces deux éléments ont plus que compensé l'impact sur le taux de marge brute d'environ moins 15 points de base, dû au recul de l'activité de Nature et Découverte, pénalisée par la baisse du trafic en magasin, et l'impact technique du développement de la franchise, pour environ moins 25 points de base. Pour rappel, la franchise permet au groupe d'avoir un maillage territorial conséquent en étant présent dans des zones de chalandise plus petites. Cela permet à environ 90% des Français d'avoir un magasin Fnac ou Darty à moins de 15 minutes de leur domicile et assure ainsi la pertinence du click and collect. Ce développement en franchise est certes dilutif au niveau de la marge brute, mais il est relutif au niveau de l'EBIT. Les coûts opérationnels atteignent 2,103 milliards d'euros, en hausse par rapport à 2020, ce qui est en lien avec la forte croissance de l'activité. Je tiens toutefois à souligner la bonne tenue de nos coûts opérationnels, lesquels exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires s'établissent en baisse de moins 20 points de base par rapport à l'année dernière, grâce à nos plans de performance. Ces plans de performance ont permis une fois de plus de compenser la hausse des coûts liés à l'inflation grâce à des actions portées par l'ensemble des directions du groupe. Le résultat opérationnel courant s'établit donc à 271 millions d'euros en 2021, qui est un niveau supérieur à celui de 2019 pro forma, en excluant l'activité de billetterie, qui reste encore fortement impactée par la crise sanitaire. Ainsi, la marge opérationnelle du groupe s'établit à 3,4% en 2021, en hausse de 50 points de base par rapport à 2020. Passons maintenant au bas du compte de résultat. Les autres produits et charges non courants s'établissent à moins 10 millions d'euros en 2021, en baisse par rapport à l'année dernière, et intègrent principalement des charges de restructuration. Le résultat opérationnel total atteint ainsi 260 millions d'euros, en hausse de plus 61 millions par rapport à 2020. Les charges financières s'élèvent à moins 42 millions d'euros pour l'année 2021 contre 51 en 2020. Cette baisse provient principalement de la revalorisation à la hausse de la juste valeur des parts du groupe dans le fonds de capital risque Daphne Purple dans lequel nous avions investi en 2016. De plus, la nouvelle stratégie de financement mise en place en mars 2021 a permis l'optimisation des charges d'intérêt avec un allongement de la maturité moyenne de la dette du groupe. La charge d'impôt s'élève à moins 74 millions contre moins 60 en 2020. Cette dernière est en hausse sur un an, directement liée à la progression des résultats du groupe. Cependant, elle intègre, comme nous l'avions prévu, une baisse de la charge d'impôt liée à la CVAE pour près de 10 millions d'euros par rapport à 2020 et une baisse du taux d'impôt sur les sociétés conformément aux annonces du gouvernement. Ainsi, le taux effectif d'impôt s'affiche à 34%, en retrait de 6 points par rapport à l'année dernière. Le résultat net des activités poursuivies s'établit donc à 145 millions contre 88 millions l'année dernière. Passons maintenant à l'analyse des flux de trésorerie disponibles à fin décembre. Le cash flow libre opérationnel hors IFRS 16 s'affiche en baisse de moins 22 millions par rapport à 2020, à un niveau qui reste toutefois très élevé à 170 millions. Cette performance reflète d'une part la hausse de l'EBITDA en ligne avec l'évolution du résultat opérationnel courant que je vous ai expliqué précédemment. Elle reflète également la bonne gestion du besoin en fonds de roulement dans un contexte de nécessaire reconstitution des stocks après une année 2020 que nous avions terminée avec un niveau de stock particulièrement bas. De plus, ce niveau de cash flow libre témoigne d'un pilotage pertinent et efficace de nos achats de marchandises afin de pallier l'ensemble des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Cette gestion agile des stocks a permis d'avoir un bon niveau de disponibilité des produits tout au long de l'année et d'assurer ainsi le succès des grands rendez-vous commerciaux, notamment de fin d'année. Concernant les investissements opérationnels, en 2021, ils sont revenus à un niveau normatif et se sont élevés à 117 millions d'euros, conformément à ce que nous avions annoncé dans le cadre du plan Everyday. Ce niveau comprend notamment les investissements qui ont été nécessaires au déploiement du partenariat Fnac avec Manor en Suisse, avec l'ouverture de 9 shopping shops en 2021. En revanche, le groupe anticipe une légère hausse de ses investissements à partir de 2022, avec la prise en compte du déploiement de 14 shopping shops au sein de Manor, au premier semestre 2022, donc en ce moment, et d'une partie des investissements supplémentaires d'environ 40 millions d'euros au global, sur la durée du plan, dédiés à la modernisation de nos outils et nos équipements logistiques. Au total, sur 2022, les investissements du groupe seront plutôt de l'ordre de 140 à 150 millions d'euros, soit autour de 130 millions d'euros hors logistique. Quelques mots pour finir sur notre structure financière. La situation financière du groupe est saine, avec des capitaux propres de plus de 1,5 milliard d'euros et une trésorerie nette hors IFRS 16 de 247 millions d'euros à fin décembre 2021, en hausse de plus 133 millions d'euros sur un an. En parallèle et pour rappel, le groupe a annoncé en mars 2021 la réussite de sa nouvelle stratégie de financement qui a constitué D'abord, à rembourser l'intégralité du prêt garanti par l'État pour un montant de 500 millions d'euros que nous n'avons jamais utilisé. Ensuite, à étendre notre ligne de crédit RCF à 500 millions d'euros avec une maturité maximale en 2028. Cette nouvelle facilité de crédit intègre une composante RSE en cohérence avec les objectifs du plan stratégique Everyday qui permettra au groupe d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs fixés sont atteints. Et enfin, nous avons remboursé le Senior Term Loan Facility de 200 millions d'euros qui venait à échéance en avril 2023 et l'avons remplacé par une obligation convertible pour 200 millions d'euros à échéance 2027. Grâce à cette nouvelle structure de financement, Fnac Darty optimise le coût moyen de sa dette et n'a plus aucune échéance majeure de remboursement avant 2024. Ainsi, nous disposons à fin décembre 2021 de plus d'un milliard d'euros de disponibilité, auquel s'ajoute la ligne de crédit RCF de 500 millions d'euros qui n'est pas tirée à date. Ce bilan extrêmement sain nous rend confiants pour faire face aux incertitudes qui perdurent dans un contexte de crise. Par ailleurs, les agences Standard & Poor's et Scope Ratings ont récemment relevé d'un cran la notation de crédit long terme de Fnac Darty pour la porter à BB+ et BBB, respectivement, avec une perspective qui est stable. Nous sommes très satisfaits de ces relèvements qui soulignent la solide gestion financière de Fnac Darty et toujours dans un contexte qui reste compliqué. Enfin, conformément à ce que nous avions annoncé lors du plan stratégique Everyday, le groupe a réactivé en 2021 sa politique de retour aux actionnaires avec le versement d'un premier dividende de 1 euro qui a été payé le 7 juillet de l'année dernière. Revenons maintenant sur la performance de notre chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2022. Fnac Darty a enregistré une très bonne résistance de ses ventes au premier trimestre. Elles s'affichent en léger recul de seulement moins 2,5% de données comparables, malgré une base de comparaison extrêmement élevée, puisque nous avions enregistré une croissance de nos ventes de plus 21,7% au premier trimestre 2021. Par rapport à 2019 pro forma, le groupe affiche toujours une solide croissance de ses ventes à plus 7,8%. Et, d'après les chiffres publiés par la Banque de France, nous continuons de surperformer le marché en France au global au cours du premier trimestre 2022. De plus, cette performance résulte d'une solide croissance des ventes en magasin dans un contexte où tous les magasins étaient ouverts ce trimestre et d'un niveau de vente en ligne qui reste soutenu à 23% des ventes totales du groupe. Je vous rappelle que le niveau de vente en ligne du premier trimestre est toujours moins élevé que le taux annuel compte tenu de la saisonnalité de notre activité. Par ailleurs, le click and collect, qui est clé pour notre modèle omnicanal, représente toujours près d'une vente en ligne sur deux. Ce taux s'élève à 47% des ventes en ligne au premier trimestre 2022, en progression de 6 points sur un an. Enfin, le groupe a réussi à préserver son taux de marge brute ce trimestre, qui s'affiche en croissance de 40 points de base par rapport au premier trimestre 2021, porté notamment par la contribution positive des services, avec la poursuite du déploiement de Darty Max et la reprise de la billetterie. Je vais conclure maintenant en vous présentant la performance récente du cours de l'action. Comme une majorité des valeurs du SBF 120, le cours de l'action Fnac Darty a été marqué par une forte volatilité en 2021, en lien avec la poursuite de la crise sanitaire. Depuis le début de l'année 2022, le cours a été pénalisé par la guerre en Ukraine et la montée de l'inflation qui engendre une hausse de l'inquiétude des investisseurs quant à la confiance des ménages et à l'impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Sur 12 mois glissants, la tendance du cours de bourse de Fnac Darty reste néanmoins mieux orientée que celle des autres acteurs du secteur et s'établit à 48 euros à hier soir. Je vous remercie et je le repasse maintenant la parole à Enrique qui va vous présenter les perspectives du groupe et la politique de retour aux actionnaires.
Merci beaucoup Jean Brieux. Comme vous l'avez compris, tout nous invite à être prudents en ces débuts d'année dans la perspective qu'on pourrait donner au marché. On s'est malheureusement habitué à piloter pendant ces deux dernières années avec une capacité très limitée d'anticiper à la fois la consommation et à la fois la manière comme on va pouvoir opérer. Donc voilà, il faut rester prudent, mais néanmoins il faut affirmer notre volonté de continuer à avancer dans notre modèle, à déployer notre modèle tel qu'on l'avait décliné au plan Everyday, avec un niveau d'ambition très élevé dans les mondes des services, à surperformer le marché, avoir un regard très attentif à l'atténuation des dommages bruts dans une période où la volatilité des ventes peut être encore plus importante, et évidemment dans un contexte d'inflation qui commence et qu'on ne comprend pas trop jusqu'à quand et jusqu'à combien il pourra porter dans les prochains mois, voire trimestres. Il nous invite à être prudents de la manière comme les groupes il va utiliser ses ressources pour déployer son activité. Néanmoins, on est en capacité de confirmer les orientations à moyen terme que nous avions données lors de nos plans Everyday, c'est-à-dire un cash flow cumulé 3 ans de au moins 500 millions d'euros, et puis une capacité de générer des cash flows libres à partir de la dernière année du plan 2025 des plus de 240 millions d'euros. Et pour finir, sur le sujet des retours à l'actionnaire, qui va être soumis à vote aujourd'hui, il y a juste un an, nous étions dans nos discloses de nos politiques de dividendes du plan Everyday. Nous avions annoncé notre volonté de revenir sur une normalisation de cette politique. Nous avions validé en Assemblée générale l'année dernière le versement du premier dividende du groupe post-intégration dans Fnac et Darty, en euros. Nous avions validé aussi une politique qui nous a mené vers une distribution progressive qui allait accompagner à la fois un taux de distribution par rapport aux résultats, mais aussi une capacité d'endettement que nous souhaitions limiter pour veiller à la soutenabilité de cette politique. Et donc, ce qui nous amène aujourd'hui à soumettre aux bottes de nos actionnaires aujourd'hui un versement d'un dividende de 2 euros au titre de l'exercice 2021. Qui reflète bien la bonne contribution aux résultats et la bonne structure financière de ces groupes. Donc avant de passer la parole à Antoine Conseil-Ranville qui va nous décrire les travaux du différent comité de la gouvernance, aussi les éléments des rémunérations qui vont être soumis à vote, je souhaiterais remercier à tous qui ont contribué d'une manière si brillante à la tenue de ces résultats. Vous donner une confiance de la capacité de votre groupe et la preuve qu'il a fait de s'adapter à des moments complexes et comment, dans ces périodes, nous avons compris tous que la Fnac et Darty sont des acteurs qui comptent pour ses clients et qu'ils ont un rôle à jouer dans le futur de nos sociétés. Je vous remercie de votre attention. On sera bien évidemment à la fin des séquences avec mes collègues et pour répondre à vos questions. Et maintenant, Antoine, à toi pour prendre la parole. Merci.
Je suis très heureux de m'adresser à vous une nouvelle fois pour vous présenter, d'une part, la composition et l'activité du conseil d'administration et, d'autre part, les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour la société en 2021 et en 2022. Le Conseil, tout d'abord. Cette année, trois de nos administrateurs voient leur mandat arriver à leur terme. Il s'agit de Mme Daniela Weber, de M. Jean-Marc Janaillac et de notre président Jacques Vera. Nous soumettons aujourd'hui à votre approbation le renouvellement de leur mandat pour une durée de 4 ans pour Daniela Weber et pour Jean-Marc Janaillac et de 3 ans pour Jacques Vera, puisqu'à l'issue de cette période de 3 ans, Jacques Vera perdrait logiquement son statut d'administrateur indépendant, puisqu'il sera là depuis 12 ans. Par ailleurs, suite à la démission de son mandat de Mme Delphine Mousseau en début d'année, nous soumettons à votre approbation la nomination pour une durée de 2 ans de Mme Stéphanie Meyer au sein du Conseil. Enfin, à l'issue de cette Assemblée générale, et compte tenu de la récente démission de son mandat de Mme Carole Ferrand, si les résolutions 6 à 9 agréées par le Conseil reçoivent votre approbation, notre Conseil comptera 13 administrateurs, dont 2 administrateurs représentant les salariés et 10 administrateurs indépendants, soit 91% du Conseil, et 5 administratrices, soit 45% de l'ensemble du collège. Au nom du Conseil, je souhaite remercier chaleureusement Carole Ferrand et Delphine Mousseau pour leur engagement constant et leur très précieuses contributions au développement de notre groupe. Nous les regretterons l'une et l'autre. S'agissant des travaux du Conseil d'administration depuis la dernière Assemblée générale, le Conseil s'est réuni à 7 reprises avec un taux de participation moyen assez remarquable de 98%, ce taux étant maintenu, quasiment maintenu au début de l'année 2022 avec 3 réunions et un taux de participation à 97%. Outre les travaux qu'il mène habituellement, le Conseil, cette année, a plus spécifiquement validé le plan stratégique Everyday et en a suivi le déploiement lors de sa première année. Et il a également examiné et validé la feuille de route climat du groupe dont Frédéric vous a parlé il y a quelques instants. L'activité du Conseil et de ses comités au cours de l'année et au début de l'année 2022 est détaillée dans le chapitre 3 du document d'enregistrement universel, de la page 201 à la page 207. Le deuxième sujet sur lequel nous avons à vous faire rapport est celui des questions de rémunération des mandataires sociaux, en commençant d'abord par la rémunération au titre de l'année 2021. Donc je vous propose de vous présenter d'abord les éléments de rémunération versés et attribués en 2021, qui sont détaillés aux pages 210 à 237 du dernier document d'enregistrement universel, et ces éléments de rémunération sont soumis à votre approbation dans le cadre du vote des résolutions 10 à 15. En ce qui concerne les mandataires sociaux non dirigeants, c'est-à-dire les administrateurs, l'enveloppe globale annuelle allouée à leur rémunération en 2021 est de 515 000 euros. Comme vous le voyez sur la slide, 320 000 euros sont alloués aux membres du Conseil et sont versés à 70% en fonction de leur présence effective aux réunions, et 195 000 euros sont destinés à la rémunération des membres des comités, à l'exception du comité stratégique dont les membres ne perçoivent pas de rémunération pour ces réunions. Et une majoration de 50% par séance est prévue pour les présidents du Conseil et des comités. Il est à noter que, comme les années précédentes, messieurs Jacques Vera et Enrique Martinez ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat d'administrateur. La rémunération calculée mais non versée au président et au directeur général n'est pas réallouée. Au vu de tous ces éléments et compte tenu des travaux menée en 2021 et de la présence effective des administrateurs aux différentes réunions, la somme de 448 029 euros est à verser en 2022. Sur le point particulier de la rémunération du président, M. Jacques Vera a une rémunération fixe annuelle en 2021 qui est analogue à celle des années précédentes et qui est de 200 000 euros bruts. Et Jacques Vera n'a bénéficié d'aucune autre forme de rémunération ou d'avantage. S'agissant de la rémunération du directeur général, cette rémunération comporte d'abord une part fixe annuelle due et versée qui a été de 750 000 euros bruts, à laquelle s'ajoute une part variable pouvant représenter au maximum 150% de la rémunération fixe. Cette part variable, comme vous le voyez, se décomposait à 60% en fonction de la réalisation d'objectifs économiques et financiers répartis sur 3 critères, le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant et le cash flow libre. 10% de cette part variable était fonction de l'atteinte d'un objectif lié à l'expérience client, le Net Promoter Score. 10% aux critères RSE, qui était la notation extra-financière du groupe et l'engagement des salariés, et les 20% restants en fonction d'objectifs qualitatifs, qui étaient le lancement et le déploiement du nouveau plan stratégique, Everyday, avec l'atteinte des objectifs fixés pour la première année, sur les 3 objectifs de ce plan, qui étaient l'incarnation des nouveaux standards de retail omnicanal sur le plan à la fois digital et sur le plan humain, l'accompagnement des consommateurs dans l'adoption de comportements durables et le déploiement de services de référence d'assistance du foyer par abonnement. Le deuxième objectif qualitatif était la qualité du management, le climat social, la qualité de la communication financière, du reporting aux actionnaires et la relation avec les administrateurs. Sur la base de l'ensemble de ces critères, le comité des rémunérations et nominations puis le conseil ont longuement débattu et sont parvenus à la conclusion que le taux d'atteinte de la rémunération variable annuelle au titre de l'année 2021 était de 93,94% du potentiel maximum. Le montant dû est donc de 1 056 782 euros bruts. Et évidemment, le versement de ce montant est subordonné à votre approbation dans le cadre de la résolution 15. Toujours au titre de la rémunération de 2021 du directeur général, le Conseil a souhaité aligner les intérêts à long terme du directeur général et ceux des actionnaires. Et il a ainsi attribué en 2021 à Enrique Martinez, dans le respect du plafond déterminé et voté par l'Assemblée générale du 27 mai 2021, 39 911 actions de performance. Ce plan, dont la durée est de 3 ans, a été attribué également aux managers clés du groupe. L'acquisition de ces actions de performance est subordonnée évidemment à la présence du directeur général au terme du plan et elle est soumise à la réalisation de différentes conditions pour 30% d'une condition de performance boursière mesurée par le total shareholder return de la société comparé à celui des sociétés du SBF 120, pour 50% à une condition de performance liée à l'atteinte d'un niveau de cash flow libre et pour 20% à une condition de performance liée à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Chaque condition de performance est mesurée à la fin du plan, en prenant en compte la performance de l'ensemble de la période. Chaque critère de performance a un objectif seuil, au-dessous duquel aucune action liée à ce critère n'est acquise. La valorisation de ces actions de performance à la date d'attribution telle que retenue dans le cadre d'IFRS 2 est de 1 600 032 euros. En 2021, 3 328 actions de performance et 20 883 options de souscription d'actions attribuées en 2018 sont arrivées à échéance. Pour ces deux plans, l'acquisition était subordonnée à une condition de présence à leur terme et aux conditions de performance du TSR pour 30% et du résultat opérationnel courant pour 70%. Les conditions de performance particulièrement exigeantes de ces plans, et je me permets de le souligner, n'ayant pas été atteintes, aucune action et aucune option n'a pu être acquise au titre de ces deux plans. Enrique Martinez bénéficie également d'une retraite supplémentaire à cotisation définie, au même titre que les cadres du groupe. Il bénéficie du régime de prévoyance dont bénéficient les salariés du groupe. Il bénéficie d'une assurance chômage et d'une voiture de fonction. Enfin, le Conseil et Enrique Martinez ont entériné un engagement de non-concurrence d'une durée de 2 ans à compter de la fin de son mandat. Pour terminer cet exposé, je vous dirai un mot maintenant des principes de rémunération pour 2022. La politique de rémunération arrêté par le Conseil, a été établi pour chacun des mandataires sociaux afin d'être conforme à l'intérêt social de l'entreprise, contribuant à sa pérennité et s'inscrivant dans son plan stratégique Everyday. Elle est définie de manière à être à la fois compétitive pour pouvoir attirer et retenir des dirigeants performants et proportionnée à l'étendue des missions et des responsabilités qui sont confiées à chacun, qu'il s'agisse du président, du dirigeant mandataire social exécutif, c'est-à-dire du directeur général, et ou des membres du Conseil. En ce qui concerne plus spécifiquement les principes de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants, c'est-à-dire des administrateurs, ils sont inchangés par rapport à 2021. Et la rémunération sera donc identique avec une enveloppe de 515 000 euros comme l'an dernier, attribuée selon les mêmes principes et les mêmes règles que celles qui étaient d'ores et déjà en vigueur. S'agissant maintenant de la rémunération du président, elle est également maintenue à 200 000 euros en rémunération fixe. Elle est identique aux années passées. Et le Conseil ne prévoit pas d'octroyer de rémunération variable, court terme ni de long terme, au président. Le président peut bénéficier d'une rémunération au titre de son mandat d'administrateur, déterminée, répartie et attribuée selon les règles applicables à l'ensemble des administrateurs. Néanmoins, Jacques Veyrat, à sa demande, ne perçoit pas de rémunération à ce titre. S'agissant, pour terminer, des principes de rémunération du directeur général pour 2022, la rémunération annuelle fixe a également été déterminée en cohérence avec les pratiques du marché et après analyse des principales dimensions de l'entreprise et du domaine d'action du dirigeant. Pour Enrique Martinez, cette rémunération fixe sur la base de ces principes reste inchangée à 750 000 euros. La rémunération variable annuelle représente à objectif atteint 100% de la rémunération fixe et au maximum 150% de cette rémunération en cas de dépassement des objectifs. Les objectifs économiques et financiers, l'objectif lié à l'expérience client et les objectifs liés à la responsabilité sociale et environnementale sont inchangés par rapport à 2021. Et en revanche, les objectifs qualitatifs sont revus et adaptés, définis de manière précise, et leur atteinte est appréciée par le Conseil sur la base de l'exécution du plan Everyday et la qualité du management et du climat social. Afin d'aligner plus étroitement leurs intérêts avec ceux des actionnaires, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs sont éligibles au plan d'intéressement long terme attribué par le Conseil, avec comme précédemment, évidemment, une condition de présence à l'échéance et plusieurs conditions de performance. La valeur d'attribution de ces plans est proportionnée à la partie fixe et variable. Ainsi, la rémunération de long terme peut représenter au maximum 50% de la rémunération globale du dirigeant. Les dirigeants sont enfin tenus au respect d'une obligation de conservation d'un minimum de titres jusqu'à la cessation de leurs fonctions. De plus, ils prennent l'engagement formel de ne pas recourir à des opérations de couverture de leurs risques. Enrique Martinez, en tant qu'administrateur, aurait pu bénéficier dans les mêmes conditions que l'ensemble des administrateurs à une rémunération spécifique, mais il ne bénéficie pas de cette rémunération. Il est en revanche soumis à un engagement de non-concurrence qui, comme précédemment, est limité à une période de 2 ans à compter de la fin de son mandat, en contrepartie duquel il perçoit une indemnité compensatrice brute représentant 70% de la rémunération mensuelle fixe. Et évidemment, le Conseil pourra renoncer à la mise en œuvre de cette clause. Il bénéficie comme précédemment, d'un régime de retraite à cotisation définie, ainsi que des avantages en nature préexistants, c'est-à-dire une voiture de fonction. Et en l'absence de contrat de travail avec la société, il bénéficie d'une assurance chômage propre aux mandataires sociaux non exécutifs. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Avant de conclure cette intervention, j'aimerais remercier au nom du président l'ensemble des administrateurs pour l'engagement dont ils ont fait preuve, pour la grande assiduité dont ils ont également fait preuve au cours de cette année, plus que cela pour la liberté et la qualité des échanges que nous avons eus entre nous et dont j'espère qu'ils ont pu contribuer à la bonne mise en œuvre de la stratégie de la société et enfin pour le climat de grande confiance dans lequel nous avons travaillé l'an dernier, dans le meilleur intérêt, je l'espère, du groupe et de ses actionnaires. Je vous remercie.
Je complète avec des remerciements particulièrement chaleureux pour Antoine. Merci pour tout. C'est maintenant Guillaume qui va prendre la main au titre du collège des commissaires.
Bonjour mesdames et messieurs les actionnaires. Il me revient de vous rendre compte des travaux réalisés et des rapports émis par votre collège des commissaires aux comptes représentés par les cabinets Deloitte et KPMG. Alors je ne vais pas vous faire la lecture intégrale de ces rapports, mais je vais m'attacher à vous en dresser les éléments les plus importants. Ces rapports sont au nombre de 5 et nous allons les parcourir ensemble. En préambule, je tiens quand même à vous signaler que vous rappelez que la crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 a créé des conditions très particulières pour la préparation de l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise, ainsi que les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement, et le travail à distance ont également une incidence sur l'organisation interne des entreprises et de facto sur les modalités de mise en œuvre des audits. Dans ce contexte évolutif, nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 et jusqu'à la cite date de d'émission de notre rapport. Et notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1 du règlement 537-2014. Voilà. Au travers des rapports présentés, nous porterons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels et consolidés de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées pour faire face à ces risques. Nous commencerons donc par notre rapport sur les comptes annuels, rapport qui figure aux pages 387 à 391 du document universel d'enregistrement et qui ne comporte ni observation ni réserve de notre part. Dans notre rapport, nous portons à votre connaissance le point clé de l'audit relatif au risque d'anomalies significatives qui concerne l'évaluation des titres de participation et qui était important pour notre audit des comptes annuels de l'exercice. Ce rapport indique également les réponses que nous avons apportées face à ce risque. Tout d'abord, vérifier que l'estimation de cette valeur d'utilité déterminée par la direction est fondée sur une justification appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chiffres utilisés. Recalculer la valeur d'utilité par nos experts en évaluation. Et enfin, vérifier la cohérence et le contrôle arithmétique de la ventilation du critère d'allocation retenu entre les titres de participation des filiales FNAC Darty Participation et Services et Darty Limited. Par ailleurs, nous n'avons pas d'observation à mentionner sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Passons maintenant au rapport sur les comptes consolidés. Ce dernier figure dans les pages 380 à 386 du document universel d'enregistrement et lui non plus ne comporte ni observation ni réserve de notre part. Les points clés de l'audit sont au nombre de 3 et concernent l'évaluation et la comptabilisation des ristournes et coopérations commerciales perçues et à percevoir des fournisseurs, l'évaluation des marques Darty et Vandenborre, ainsi que la valeur recouvrable du goodwill affecté à l'unité génératrice de trésorerie France. Le premier point clé identifié concernant l'évaluation et la comptabilisation des ristournes et coopérations commerciales perçues des fournisseurs. Pour ce faire, les travaux que nous avons réalisés pour valider la correcte évaluation, consiste à rapprocher les termes commerciaux utilisés dans le calcul avec les contrats d'achat et d'accord avec les fournisseurs, comparer les estimations faites au titre de l'exercice précédent avec les réalisations afin d'évaluer la fiabilité du processus d'estimation et enfin corroborer les volumes d'affaires retenus avec les volumes d'affaires enregistrés dans les systèmes d'information d'achat du groupe pour calculer les montants attendus des ristournes. Sur les deux points clés de l'audit relatif aux marques et au goodwill, nos travaux ont principalement consisté à apprécier les éléments composant la valeur comptable des unités génératrices de trésorerie auxquelles les cartes d'acquisition et les marques sont rattachées par le groupe, les principes et méthodes de détermination des valeurs recouvrables, la cohérence des projections de flux de trésorerie ainsi que la cohérence du taux de croissance retenu pour les flux projetés avec les analyses externes disponibles. La comparaison des estimations de projection de flux de trésorerie des périodes précédentes avec la réalisation effective correspondante pour en évaluer la fiabilité. Et enfin, les taux de redevance appliqués aux marques dans le calcul de la valeur basée sur les revenus futurs. Concernant notre rapport sur les conventions et engagements réglementés, celui-ci figure à la page 240 du document universel d'enregistrement et nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice à soumettre à l'Assemblée générale ni d'aucune convention approuvée au cours d'exercice antérieur dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. Concernant les deux derniers rapports, ceux-ci sont relatifs à des délégations de compétences et autorisations à donner à votre conseil d'administration. Le premier rapport concerne l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, présent aux 18e et 19e résolutions. Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions d'émission qui seraient décidées, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre donnés dans le rapport du Conseil d'administration au titre des 18e et 19e résolutions. Les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celle-ci et par voie de conséquence sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. Conformément à l'article R225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration. Enfin, le second rapport concerne la réduction de capital par annulation d'actions rachetées, présent 17e résolution, et pour laquelle nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction de capital envisagée. Voilà qui termine mon allocution sur les travaux de votre collège et commissaire aux comptes. Je vous remercie.
C'est maintenant à notre secrétaire de l'Assemblée, Nathalie, de présenter les résolutions.
Merci Jacques. Alors, mesdames, messieurs, les résolutions qui sont soumises à votre approbation sont les suivantes, étant rappelé que les résolutions 1 à 16 et 20 sont à caractère ordinaire et les résolutions 17 à 19 à caractère extraordinaire. Alors, par les quatre premières résolutions, il vous est demandé d'approuver les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021, ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice 2021. Ainsi, le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 74 121 965,5 euros, serait affecté à hauteur de 63 834,70 euros à la réserve légale, de 53 522 236 euros aux dividendes et le solde compte report à nouveau, lequel, compte tenu de son solde antérieur de 200 671 622,22 euros, serait porté à 223 207 516,57 euros. Le dividende brut revenant à chaque action serait de 2 euros, payable le 23 juin 2022, et le détachement du coupon interviendrait le 21 juin 2022. La cinquième résolution a pour objet de prendre acte de l'absence de convention nouvelle de la nature de celle visée aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce. Les résolutions 6 à 8 concernent le renouvellement de mandat d'administrateur. La sixième, le renouvellement du mandat de M. Jacques Véra en qualité d'administrateur pour une durée de 3 années, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts. La septième, le renouvellement du mandat de Mme Daniela Weber-Rey en qualité d'administrateur pour une durée de 4 années. La huitième, le renouvellement du mandat de M. Jean-Marc Janaillac en qualité d'administrateur pour une durée de 4 années également. La neuvième résolution a pour objet de nommer Mme Stéphanie Meyer en adjonction aux membres actuellement en fonction en qualité d'administrateur pour une durée de 2 années, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts. Les résolutions 10 à 12... Conformément aux dispositions de l'article 22-10-8 du Code de commerce, il est proposé à l'Assemblée, par la 10e résolution, d'approuver la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration. Par la 11e, la politique de rémunération du président du Conseil d'administration. par la 12e, d'approuver la politique de rémunération du directeur général et ou de tout autre dirigeant mandataire social exécutif. La politique de rémunération des membres du conseil d'administration, du président du conseil d'administration et du directeur général et ou de tout autre dirigeant mandataire social exécutif, est présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le document d'enregistrement universel, section 331. La 13e résolution concerne l'approbation des informations visées au grand 1 de l'article L22-10-9 du Code du commerce, qui vous ont été présentées par M. Antoine Gosset-Grainville, étant précisé que des résolutions spécifiques portant sur l'approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au président et au directeur général sont soumises au vote. Les 14e et 15e résolutions concernent l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice tels qu'ils vous ont été présentés par M. Antoine Gosset-Grainville tout à l'heure. Donc, au président du conseil d'administration à la 14e résolution, au directeur général à la 15e. La 16e résolution soumise à votre approbation, concerne le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration de racheter les titres de la société dans la limite de 10% du capital, conformément à la loi, le montant maximal de cette autorisation ayant été fixé à 214 088 880 euros. À la 17e résolution, il vous est demandé d'autoriser le conseil d'administration à annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article 22-10-62 du Code de commerce. La 18e résolution, soumise à votre approbation, concerne la délégation de compétences à donner au conseil d'administration en vue d'octroyer des options de souscription et ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et ou certains mandataires sociaux dans la limite de 3% du capital au jour de l'attribution avec une sous-limite de 0,6% du capital pour le nombre total des options pouvant être octroyées aux dirigeants mandataires. Je vous rappelle que le montant s'imputerait sur le plafond global de 13 millions d'euros prévu à la 19e résolution à caractère extraordinaire de l'Assemblée générale du 27 mai 2021, représentant environ 50% du capital au jour de la présente Assemblée, et d'autre part que les plafonds de 3 et 0,6% s'imputeraient sur le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil d'administration au titre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale du 28 mai 2020 à la 20e résolution. La 19e résolution, soumise à votre approbation, porte, conformément à l'obligation légale, sur l'augmentation de capital réservée à des adhérents de plans d'épargne d'entreprise dans la limite de 1,3 million d'euros, représentant environ 5% du capital au jour de la présente Assemblée. Je vous rappelle que ce montant s'imputerait sur le plafond global de 13 millions d'euros prévu à la 19e résolution à caractère extraordinaire de l'Assemblée générale du 27 mai 2021, représentant environ 50% du capital au jour de la présente Assemblée. Et enfin, la 20e résolution concerne les pouvoirs pour accomplir les formalités. Voilà, je vous remercie. La présentation des résolutions est terminée.
Eh bien, nous allons passer maintenant, merci Nathalie, à la session des questions-réponses. Donc, nous avons des micros qui sont circulés. Et si vous voulez bien, bienvenue.
Oui, bonjour, Monsieur le Président. J'ai en fait trois questions. La première concerne votre objectif d'avoir 100% des magasins intégrés rentables en 2025. Pourquoi certains ne le seront pas aujourd'hui? Pourquoi pensez-vous qu'ils le seront donc en 2025? Ma deuxième question concerne le RSE. Vous avez expliqué qu'en fait, vous avez fait des investissements dans la production d'électricité. Il me semble que c'est un peu vous écarter de votre cœur de métier, qui est la production d'électricité est un secteur très particulier. Et je me demande si vous n'avez pas avantage à vous centrer plutôt sur votre activité principale, qui est votre cœur de métier. Voilà. Et en fait, ma dernière question concerne les chiffres pour le premier semestre 2022. Par rapport à 2021, donc une forte baisse, mais je n'ai pas très bien compris la raison de cette forte baisse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général.
Okay. Je vais juste, en tant qu'électricien, répondre à la deuxième question.
Non, il n'est pas question d'être producteur d'électricité. C'est la société Valeco, en l'occurrence, qui fait le travail de développer une nouvelle ferme solaire. En revanche, je suis assez impressionné par le sens du timing des équipes de la FNAC, parce qu'elles ont donc sécurisé le prix de cette production pour les années qui viennent, à un prix qui s'est fait, qui s'est sécurisé. On a approuvé ça au Conseil du mois de février. Donc ça s'est signé fin février, début mars, juste avant l'explosion des coûts d'électricité. Donc c'est le PPA, donc le contrat d'achat d'électricité le plus intelligent de 2022. Mais je vous rassure, on n'a pas de compétences et on n'a pas vocation à les développer en matière de production nous-mêmes. En revanche, on participe par notre engagement à la réalisation de ce projet. Pour les autres questions, tu seras plus compétent que moi.
Non, rapidement. Tu aurais pu aussi. Les parcs des magasins, comme on l'a dit, on a autour des 5% du parc des magasins qui aujourd'hui ne sont pas rentables. Et ça, je dirais que c'est normal dans un réseau aussi important comme les nôtres. La question que vous posez, pourquoi ils posent autant de temps d'y arriver à 100% rentabilité? D'abord, il faut savoir qu'il y a des veaux qui ont des durées parfois un peu longues, avec des opportunités, des renégociations, des sorties tous les 3 ans. Il y a certains nombres de projets qui sont complexes à mettre en place, même si nous avons un accord aujourd'hui avec les bailleurs, le propriétaire, les temps de pouvoir exécuter les travaux, réduire la surface ou arriver à un transfert. Ça prend aussi un certain temps. Est-ce que je peux vous dire aujourd'hui que l'ensemble des plans d'action qui concernent ces magasins sont identifiés et en cours d'exécution, et il faudra attendre, peut-être avec un peu d'optimisme, avant 2025, qu'on serait en mesure d'avoir mis en place 100% des plans d'action qui concernent ces magasins. Sur les résultats du premier trimestre, ce n'était pas le semestre, c'était le trimestre 2022, il ne faut pas oublier que nous étions sur une base de comparaison en 2021 extrêmement importante, avec une croissance de plus de 10%. Donc, et nous avons fait effectivement un chiffre d'affaires négatif par rapport à l'année dernière, mais très positif si on compare par exemple à l'année 2019. Ça, c'est la raison principale. Évidemment, comme l'a été dit, les conséquences de la guerre en Ukraine, de l'inflation, ça a affecté une partie de la consommation, surtout à la fin de ces trimestres. Mais je tiens à souligner que la raison principale, c'est la base des comparaisons qui était extrêmement élevée sur ces premiers trimestres de l'année.
Vous avez compris, avec les arrêts et les fermetures de magasins, les trimestres à trimestre, c'est quasiment illisible. C'est pour ça qu'on se repère toujours par rapport à une année normale, la dernière année normale.
Merci.
Bonjour, Monsieur Gender, actionnaire individuel. Une félicitation pour Monsieur Jacques Vera, puisqu'effectivement, par rapport à sa frugalité salariale, où il ne demande pas de variable, est-ce que vous pourriez l'expliquer à l'auditoire qui est là, les raisons qui vous poussent à cette frugalité? Et après, j'avais une autre question qui est plus d'ordre général, qui concerne la FNAC, Darty et ses commis, en l'occurrence Monsieur Kretinsky, puisqu'effectivement, il était déjà actionnaire il y a quelques années. Je pense qu'il était sorti de la FNAC, il est revenu. Est-ce que vous avez des choses à nous communiquer sur le sujet?
Alors, sur la frugalité, je vous dis tout. Je ne suis pas sûr que ce soit frugal, parce que moi, je ne travaille pas à plein temps ici. C'est un travail qui me prend assez peu de temps, puisque c'est les équipes opérationnelles qui travaillent. Et à l'époque, en 2017, quand on m'a proposé de prendre la présidence, je me suis battu avec le comité des rémunérations parce que je ne voulais pas être payé. Donc on m'a dit c'est pas sérieux, ça fait pas crédible. Mais la vérité, c'est que mon engagement n'est pas lié à ma rémunération parce que j'ai la chance de très bien gagner ma vie par ailleurs. Donc c'était pour moi pas un enjeu. Je trouve que la rémunération est trop importante à mon goût, si vous voulez tout savoir. Donc c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité parce que j'ai la chance encore une fois par ailleurs. Sur Daniel Kretinsky, plus important... c'est un actionnaire dont nous nous réjouissons de la présence parce qu'on a avec Fnac Darty depuis quelques années cherché des actionnaires qui peuvent s'intéresser, et le secteur du retail fait un peu peur, et vous voyez notre cours de bourse qui se tient plutôt bien par rapport à nos concurrents européens mais qui n'est pas satisfaisant. On aimerait être valorisé sur des multiples bien plus sérieux. une société comme Fnac Darty qui génère 500 millions de free cash flow en 21, 22, 23, qui sont des années compliquées, et qui se retrouve valorisée à trois fois ça, quoi. C'est vraiment pas les multiples qu'on aime. Et donc Daniel Kretinsky, qui est un actionnaire dit value, donc qui cherche un peu les bonnes affaires un peu en Europe, est aussi un actionnaire qui a montré dans d'autres exemples qu'il pouvait entrer dans la société et en ressortir. Donc aujourd'hui, il a souhaité garder ses mains libres, et on ne peut pas vous garantir que demain il aura toujours 15%, ni 20, ni 10. Les intentions sont exprimées par écrit à chaque fois à la société comme il le doit. Il nous dit deux choses. Il nous dit j'aime la façon dont Enrique Martinez et ses équipes pilotent la société, donc je suis en soutien de votre stratégie. Et deuxièmement, je ne m'interdis rien par rapport à ma position actionnariale, ni de monter ni de baisser, et je ne demande pas à être représenté au conseil pour garder cette liberté.
Oui, bonjour, je suis actionnaire individuel, donc je voudrais vous poser une question. Actuellement, toutes les entreprises ont des problèmes d'approvisionnement, que ce soit pièces détachées, et vous n'avez pas évoqué cette partie-là. J'aimerais savoir si vous en êtes au niveau des stocks, même pour les réparations éventuellement. Merci.
Bon, merci pour votre question. Évidemment, ça fait deux ans, bientôt plus de deux ans, que nous sommes sur des perturbations fortes de toute la chaîne d'approvisionnement qui concerne presque l'ensemble de nos produits pour différentes raisons, évidemment aussi pour les pièces détachées. Je tiens peut-être à nous féliciter de la manière comme les équipes se sont battues pour malgré tout avoir un niveau de disponibilité très satisfaisant pendant des périodes très difficiles. Aujourd'hui, nous avons un niveau d'inventaire qui est revenu à des montants très équivalents à nos périodes pré-Covid. Ça ne s'empêche pas d'être inquiet si les situations en Chine ou dans d'autres pays où ces produits sont fabriqués, il devient à nouveau complexe. Mais quelque part, nous avons gagné aussi une flexibilité et une agilité pour pouvoir résoudre si jamais nous avons encore à nouveau des problèmes sur les approvisionnements. Et les pièces détachées, c'est encore plus important parce que, comme vous savez, une partie importante de la stratégie du groupe, ils partent sur la réparation. Nous avons réparé 2 500 000 produits l'année dernière, une partie avec du pièce, d'autres parties sans avoir recours aux pièces. Donc avoir les pièces, c'est fondamental pour pouvoir continuer à livrer à nos clients. Et aujourd'hui, sans pouvoir dire que tout est fini, nous sommes dans des positions qui sont plutôt un peu plus tranquilles que l'année dernière.
Fabien Ladeuil, actionnaire individuel. Vous avez parlé d'un indice de réparabilité qui était de 111, qui montait à 190. Comment vous arrivez à dépasser les 190 et jusqu'où il peut aller? Et sur les produits que vous réparez, est-ce que ça a un impact sur votre émission de CO2 et quel est l'impact en matière de... Donc, est-ce que ça impacte le scope 3 ou est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Merci.
Merci. Bon, l'indice de réparabilité, c'est quelque chose que les équipes ont produit en attendant d'avoir des critères un peu plus standards qui probablement ils vont arriver au sein de l'Europe ou au niveau mondial. Nous avons pris sur la base des dizaines, des centaines de milliers de réparations et des produits que nous avons aujourd'hui. Nous avons créé ces bassins qui concernent la durabilité et la capacité à réparer des produits que nous vendons. Et notre objectif, c'est de les faire évoluer à chaque année. Vous l'avez vu déjà. Depuis le lancement de l'indice, il évolue autour des 4 à 7 points par an. Et nous avons des engagements très forts. Il y a deux axes importants. C'est mieux choisir les produits parce qu'ils vont tomber moins en panne. Et là, c'est un travail des choix, mais aussi un travail d'influence positive avec les fabricants pour qu'ils produisent des meilleurs produits. Et ça, il y a un loop qui s'est fait entre nos équipes et les fabricants pour les imposer des critères de qualité très contraignants parfois. Et un autre sujet, c'est être capable d'avoir des pièces pour réparer
au bon prix, à la bonne disponibilité et à la bonne accessibilité du produit pour que cet indice évolue. Sur les sujets de l'impact de CO2, nous avons un engagement sur ce qui concerne nos escopes propres. Et nous avons, et vous l'avez très bien dit, une capacité d'action qui va au-delà, parce que plus de 80% de l'impact théorique qu'il y a dans les groupes sur la consommation de CO2, il concerne les produits que nous allons distribuer, la manière comme les clients ils vont les consommer. Et évidemment, l'impact qu'il peut avoir, l'effet de pouvoir réparer plus et prolonger la durée de vie de ces produits. Donc c'est tout à fait clé. Et nous avons évidemment un objectif de réparation de 2,5 millions des produits et par an, est-ce qu'il deviendra pour les groupes et pour le Fnac Darty un des acteurs majeurs de ce monde au niveau mondial. Et nous avons cet indicateur jusqu'à où peut aller en termes d'indices. Aujourd'hui, nous avons fixé un objectif à 135, c'est-à-dire les faire monter à chaque année. Et ça va devenir aussi un des objectifs majeurs de la politique des rémunérations d'une bonne partie de l'équipe qui est concernée. Et ce qui est intéressant, c'est en très peu de temps, nous avons réussi à faire infléchir la politique des durées de vie des pièces détachées des grands groupes mondiaux, européens et internationaux, qui ont plus que doublé la durée de vie des pièces utile pour la réparation. Il va bien au-delà des son obligation légale, parce que légalement, la durée est beaucoup plus courte. Et nous avons déjà des fabricants qui nous proposent 12, 15 ans. Il y a certains, ils travaillent très profondément, main dans la main avec nous, à 12, 15 ans. Donc on va pouvoir proposer à nos clients, notamment souscripteurs d'Artimax, dans l'abonnement d'Artimax, vous aurez pendant toute la durée de vie des pièces, parfois même pendant 15 ans, la possibilité de réparer vos produits dans des très bonnes conditions économiques. Et ça, c'est un des engagements plus forts du groupe. Pardon pour la réponse un peu longue.
Oui, je suis également actionnaire individuel et je m'interrogeais sur ce que vous... Pendant la période Covid, il y a eu... une grande augmentation de vos ventes sur Internet, le e-commerce, également Amazon en a profité. Amazon a une logistique apparemment extraordinaire, puisque je suis accessoirement client d'Amazon, tout en étant client de la Fnac depuis une trentaine d'années. Mais je voulais savoir quels sont vos projets pour le développement de l'e-commerce. Est-ce que vous restez sur cette lancée ou est-ce que c'est trop dur de concurrencer Amazon sur ce plan-là, pour ne citer qu'Amazon? Ouais, mais c'est vrai que leur logistique est très forte.
Merci pour votre question. Amazon est un acteur évidemment remarquable, mais nous, je vous l'ai dit, on n'a aucun type de complexe face à Amazon. Aucun. D'abord, nous avons quelque chose qu'Amazon ne pourra jamais avoir, c'est 26 000 collaborateurs très engagés, des experts, et bientôt plus de 1000 magasins à proximité qui nous permet d'avoir, en moins de 15 minutes, 100% de la population, ou bientôt presque 100% de la population, et ce qui nous fait une logistique des distributions de nos produits incomparable. Nous avons des délais de livraison de produits qui sont en magasin des moins d'une heure, et concerne 50% de notre activité digitale. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui a un grand, même avec beaucoup de grandes plateformes logistiques, ne pourra jamais arriver à proposer. Après, évidemment, nous travaillons aussi sur des éléments de logistique centrale pour pouvoir livrer rapidement l'ensemble du catalogue digital qui dépasse, entre offres propres et marketplace, plus de 30 millions de références actives. Et nous avons aujourd'hui aussi une logistique qui est très performante, qui livre à la fois la totalité des magasins avec un camion qui, après, ils vont livrer les clients, et aussi tous les jours des dizaines de milliers de colis qui partent avec un taux de qualité de plus de 98%, avec un délai de livraison d'autour de un jour. Donc, oui, Amazon, c'est un acteur remarquable qui a investi énormément avec des moyens parfois un peu illimités, mais la société de laquelle vous êtes actionnaire est client, et je vous remercie pour ça. Il a aussi des atouts très forts pour pouvoir être, sans complexe, un acteur important de l'e-commerce dans notre pays.
Je vous remercie beaucoup pour ces questions. Et on peut passer au vote, si vous voulez bien. Nathalie.
Alors, avant de passer au vote des résolutions, je vous confirme que le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée, donc soit 25% des actions ayant droit de vote, est atteint par la présence et la représentation de 22 258 956 voix, représentant 83,50% des droits de vote existants. Je vous rappelle que les résolutions 1 à 16 et 20 sont de la compétence d'une Assemblée générale ordinaire et doivent être approuvées à la majorité simple des voix des actionnaires présents représentés. Les résolutions 17 à 19 de la compétence d'une Assemblée générale extraordinaire doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents représentés. Alors, nous allons utiliser le système du vote électronique pour lequel il vous a été remis un boîtier personnel qui contient les informations du nombre d'actions et du nombre de voix que vous représentez. Je vous remercie de bien vouloir éteindre les téléphones portables qui pourraient encore être ouverts pour ne pas perturber le système de vote. Au moment du vote des résolutions, vous aurez un délai de 15 secondes pour exprimer votre vote au moyen de votre boîtier. Vous appuierez sur la touche 1 pour voter pour, la touche 2 pour voter contre et la touche 3 afin de vous abstenir du vote, étant rappelé que l'abstention équivaut à un vote contre. Je vous rappelle qu'à l'issue de ce vote, il vous sera demandé de restituer votre boîtier de vote. Je vous propose de ne reprendre que les caractéristiques essentielles de chacune des résolutions qui vous en sont soumises et que je vous ai déjà présentées. Alors, nous mettons en voie les résolutions suivantes. En partie ordinaire, la première résolution, l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Deuxième résolution. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Troisième résolution, l'approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Quatrième résolution, l'affectation du résultat de l'exercice et la fixation du dividende. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Cinquième résolution, le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, le constat de l'absence de conventions nouvelles, le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Sixième résolution, le renouvellement de M. Jacques Véra en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Septième résolution, le renouvellement de Mme Daniela Weberet en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Huitième résolution. Le renouvellement de M. Jean-Marc Janaillac en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Neuvième résolution, la nomination de Madame Stéphanie Meyer en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Dixième résolution, l'approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Onzième résolution, l'approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Douzième résolution, l'approbation de la politique de rémunération du directeur général et ou de tout autre dirigeant mandataire social exécutif. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 13e résolution, l'approbation des informations visées au grand 1 de l'article 22-10-9 du Code de commerce. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 14e résolution, l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Jacques Vera, président du conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 15e résolution, l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Enrique Martinez, directeur général. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 16e résolution, l'autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de faire racheter ses actions par la société dans le cadre du dispositif de l'article 22-10-62 du Code de commerce. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 17e résolution, l'autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetée dans le cadre du dispositif du Code de commerce. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 18e résolution, l'autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'octroyer des options de souscription et ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés. Le vote est ouvert. « Le vote est clos. La résolution est adoptée. 19e résolution, la délégation de compétences à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L3332-18 et suivants du Code du travail. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Cette résolution est adoptée. Et la dernière, à titre ordinaire, la 20e résolution pour les pouvoirs, pour les formalités. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Voilà, mesdames, messieurs, le vote est terminé. Toutes nos résolutions ont donc été adoptées.
Nous n'avons plus qu'à vous remercier de votre attention et de vos questions et de nous souhaiter à tous une belle année 2022. Merci beaucoup. Ou à ce moment-là.